Voilà, nous sommes le dernier dimanche de l'année 2024. Le dernier culte de cette année. Nous nous réjouissons des cultes l'année prochaine. Et j'aimerais, dans ce dernier culte de cette année, saluer chacun, chacune. Un grand bonjour. Quelle joie de pouvoir nous retrouver avec le Seigneur. Parce qu'il a dit qu'il était là au milieu de nous lorsqu'il y a deux ou trois personnes réunies en son nom. Une grande salutation à tous ceux qui nous regardent en streaming et une grande salutation à chacun, chacune ici dans cette salle.
Alors, avant que Jacques vous donne un témoignage en guise d'introduction, j'étais censée faire une petite introduction pour les enfants. C'est un peu râpé pour ce soir, pour ce matin. Donc voilà, je voulais leur... Ah, il y a un petit là-bas. Liam, tu veux venir devant? Je voulais leur faire deviner de quel personnage de la Bible on parle. Un personnage de l'Ancien Testament à qui Dieu a parlé en lui disant « Tu vas aller parler à Pharaon et tu vas aller parler à mon peuple ». On te met la pression là. Hein. Est-ce que tu sais quel est le personnage de l'Ancien Testament à qui on a dit ça? À qui est-ce que Dieu a dit tu iras parler au Pharaon? Hein? Liam, tu sais? À qui est-ce qu'on a dit tu iras parler à Pharaon? Il s'agit de Moïse. Hein? Et puis, je vais vous lire un ou deux versets de Exode 3 et 4. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. » Mais ils diront, « L'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel lui dit, « Jette-le par terre. » Et il le jeta par terre. Et il devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main, saisis-le par la queue. » Il étendit sa main et le saisit, et le serpent redevint un bâton dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et il lui dit encore, « Mets ta main contre toi. » Il mit sa main contre lui. Et la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main contre toi. Il remit sa main contre son sein, puis il la retira, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, et même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?» Et Moïse dit, « Oh Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère, Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire.
C'est vrai que dans cette année 2024, on a tous certainement vécu beaucoup de choses, mais aussi beaucoup de choses avec Dieu. Des choses extraordinaires, des choses peut-être moins spectaculaires. Et pour moi, j'ai vécu quelque chose de super que j'aimerais partager. Avec le groupe d'hommes, où on se réunit une fois par mois, on a lu le livre « La prière de Jabet ». Cette prière est dans 1 Chronique 4, verset 10. Et je retiens particulièrement une phrase de cette prière, « Si tu me bénis et que tu étends mes limites. » C'est vrai que cette phrase, étant mes limites, m'est revenue plusieurs fois. J'ai beaucoup réfléchi, sans trop y croire, j'ai prié pour que Dieu étende mes limites. Après plusieurs semaines, j'ai oublié cette prière. De temps en temps, elle revenait dans mes oreilles. Plusieurs semaines après, on a fait un voyage avec Chantal en Sicile, un voyage organisé, une course d'école intéressante et reposante du troisième âge. On a changé plusieurs fois d'hôtel, on a visité donc l'Etna et d'autres villes, d'autres monuments. Deux nuits avant la fin de ce voyage, Dieu m'a parlé par un long rêve. Un long rêve, une histoire très très précise que je résumerai tout à l'heure. Pendant la journée, après ce rêve, pendant cette visite, cette histoire m'est revenue en boucle. Et j'ai très peu écouté ce que le guide nous a dit, parce qu'elle revenait, elle revenait. La nuit arriva, et pendant mon sommeil, pendant cette deuxième nuit, ce rêve, cette histoire intéressante, m'a poursuivi, et ce rêve a continué, cette histoire s'est développée encore plus. Je n'arrive pas à vider mon cerveau de ces deux rêves qui faisaient une histoire merveilleuse. Dans le chemin du retour de la dernière journée, Dieu m'a dit clairement de raconter cette histoire à toutes les personnes de l'autocar. J'ai dit non, j'ai pas les paroles pour, c'est pas possible. Dieu, tu te trompes. J'ai rien à dire à tout cet autocar, c'est pas possible. Je ne sais pas m'exprimer. D'ailleurs, on rentre et certainement il y a très peu de temps, donc j'arriverai même pas à raconter cette histoire. Et dans l'autocar, Dieu m'a dit clairement à E25. Tu te lèves et tu vas à l'avant du bus. Il restait 5 minutes. Là, les frissons sont arrivés, très fort. Une énorme force à E25, une énorme force m'a soulevé. Et dans un état second, j'ai marché jusqu'à l'avant du bus. Je me suis assis sur les marches entre le conducteur et le guide. Puis je me suis dit... Il reste 10 minutes peut-être, 5 minutes, j'en sais rien, jusqu'à l'hôtel, je n'aurai pas le temps. Alors j'ai quand même demandé au guide combien de temps il reste jusqu'à notre hôtel. Il demanda donc au conducteur, qui répond plus d'une heure. Oh là là, plus d'une heure. Donc plus d'une heure, j'avais largement le temps de parler de cette histoire, de ce rêve que j'avais reçu de Dieu. Zut, je me suis dit, voilà, j'ai eu le temps de raconter ce rêve. J'ai pris le micro et le guide m'a tendu et j'ai dit, vous aimez les histoires? Oui! Vous voulez que je vous en raconte une? Oui! Et j'ai démarré. J'ai quand même 2-3 choses à vous dire par rapport à cette histoire, puisque c'est Dieu qui me l'a donnée. Cette histoire, donc, a commencé comme ça, avec un énorme livre, mais un grand livre, avec des pages vraiment presque fusées. J'ai mis des gants et j'ai tourné les pages de ce livre et je suis arrivé sur un endroit où c'était marqué si vous entendez qu'il y a de l'or, des lingots d'or à la cathédrale, vous faites quoi? Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Personne n'a répondu. Alors j'ai dit, il y a 3 catégories de personnes. Les personnes qui disent, ils déconnent, c'est n'importe quoi, il n'y a pas d'or, c'est une illusion. Donc, je ne me lève pas, je ne vais pas, etc. il y a un autre groupe de personnes qui dit « Ah, peut-être que c'est vrai, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps d'aller là-bas jusqu'à la cathédrale. C'est pas possible pour l'instant, mais j'irai peut-être un jour, on ne sait pas. » Et puis, il y a un autre groupe de personnes, un troisième groupe, qui dit « Ben moi, oui, j'y crois, j'y vais. J'y vais, puis je fouille partout. Je prends une pioche, je prends des trucs, j'ouvre ceci, cela, j'ouvre cette porte, je regarde, etc. Et si j'ai un lingot d'or, ben, tant mieux. S'il n'y en a pas, ben, j'ai un tout petit peu perdu de temps. Ce n'est pas grave. » Et puis après, j'ai tourné les pages du livre et arrivé à un certain moment, je lis dans le livre en leur disant « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et je me suis dit, j'ai dit là, ben c'est exactement la même chose que ce lingot d'or. Il y a trois catégories de personnes. Une première catégorie de personnes, elle dit « Mais ça n'existe pas, c'est pas possible, Dieu, faut pas m'en parler, je passe par-dessus, ça m'intéresse pas. » Il y a un autre groupe de personnes qui dit « Oh, c'est peut-être juste, mais je n'ai pas le temps maintenant, on verra bien, j'aurai peut-être le temps après, quand je serai à la retraite, etc. » Et puis, il y a un troisième groupe de personnes qui se dit qu'effectivement, moi, j'y crois, j'y vais, et puis, de toute façon, si c'est vrai, eh ben, je suis bénéficiaire, j'ai la vie éternelle. Si c'est pas vrai, eh ben, j'ai pas la vie éternelle, mais j'ai pas beaucoup perdu de temps, j'ai été juste jusque-là. Et ça s'est terminé comme ça, et je suis reparti, donc, bon, c'était beaucoup plus long que ça, bien entendu, mais je suis reparti à ma place, et en passant, presque tout le monde a applaudi.
Bonjour à chacune et à chacun. Alors, c'est une joie de pouvoir louer ensemble le Seigneur. Nous voulons louer le Seigneur pour qui il est et pour ce qu'il a fait pour nous. Je lis dans le psaume chapitre 31, verset 20. « Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. » Nous voulons suivre ces sentiers. Et je lis dans Ésaïe, chapitre 2, verset 3, « Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Nous chantons dans le premier chant, « Seigneur, je célèbre ta bonté, quelle joie tu vis en moi. » Quelle joie tu viens pour nous sauver. Et dans le deuxième chant, j'apprendrai à marcher dans tes voies et pas à pas, tu me conduis. C'est toi que je suivrai toute ma vie. Chantons, je loue ton nom.
Sauve, tu viens du ciel sur la terre, montre essentiel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom Saint-Esprit, que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus.
Pour les enfants qui vont descendre avec Claude, il n'y en a pas une quantité, mais il y en a quand même deux ou trois. Seigneur, on te remet tous ces enfants, on te remet Claude aussi, que tu le bénisses dans ce temps avec les enfants et que tu bénisses tous les enfants de notre communauté et tous ces enfants qui vont encore entendre parler de toi aujourd'hui. Amen.
Priez pour Philippe. Oui, Seigneur, nous pouvons vraiment nous remettre à toi. On sait que tu nous entends, tu nous donnes aussi les paroles nécessaires et nous te demandons que vraiment toutes les paroles qui sortiront de la bouche de Philippe puissent être de tes paroles. Nous voulons être édifiés par cela. Nous sommes reconnaissants de pouvoir t'écouter encore et nous te louons. Amen. Amen.
Voilà, à mon tour de vous saluer. Chers amis, comme on l'a dit en intro, je constate comme vous que nous finissons une année et que nous allons en commencer une nouvelle. Et personnellement, le changement d'année, ça me fait ressentir un peu plus le temps qui passe, un peu plus le passé et l'avenir. Je sais pas, c'est une période un peu charnière. C'est un regard en arrière sur 2024, c'est un regard d'espérance vers 2025. C'est peut-être aussi cette espérance pour 2025, c'est peut-être aussi le sens des vœux que nous formulons habituellement, la coutume, pour le nouvel an. Meilleurs vœux de toutes sortes, de santé surtout, habituellement. Et pourtant, on ne sait pas ce que 2025 nous réserve exactement. Dans 3 jours débutera donc 2025, l'année 2025 après Jésus-Christ, selon le calendrier appelé grégorien. Grégorien parce que c'est le pape Grégoire, je regarde mes notes, 13, qu'il a introduit en 1582 pour mieux synchroniser les dates et les saisons. Pour les plantations, pour tout ça. Donc, pour synchroniser mieux, il a ordonné ce calendrier sur la base, évidemment, de travaux. Je ne suis pas sûr que nous soyons conscients de la somme de travail qui a été nécessaire pour que nous puissions dire nous sommes aujourd'hui le 29 décembre 2024. Première question qu'on peut se poser. Quel est le rapport entre le temps qui passe, qui défile, on en est plus ou moins conscient, et l'éternité? La notion d'éternité est assez compliquée parce qu'on n'est pas dedans, ou on est englobé dedans. C'est là un endroit où la question de temps n'est pas du tout concernée. Et le premier verset de la Bible, page 1, verset 1 de la Genèse, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Comme s'il y avait deux choses différentes. Un commencement signifie un début, quelque chose qui se poursuit, c'est-à-dire un processus. Et il y a longtemps, Dieu a décidé, on pourrait dire que quelque chose de matériel existerait plutôt que rien. Oui, la création, c'est ça. Il y a quelque chose qui est suscité, qui est créé, plutôt que rien. Et dès qu'une chose matérielle existe, eh bien, il y a un grand chronomètre qui se met en marche, parce que cette chose va évoluer, vieillir, se modifier, Bref, il y a une évolution et la modification, le vieillissement, le rythme, la fin prennent du sens. Donc l'éternité n'est pas du tout concernée par le temps qui s'écoule. Le temps n'a aucun sens dans l'éternité. On ne vieillit pas dans l'éternité et Dieu ne vieillit pas, lui qui est dans l'éternité. Si nous, les normaux, je dirais les normaux, considérons le début de la Genèse par la foi, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on n'y était pas. Il y a des scientifiques, des gens qui travaillent honorablement, que personnellement j'honore et que j'apprécie, de la race des astrophysiciens, par exemple, qui vont s'interroger sur cette réalité matérielle et sur ce début. Comment s'est passé ce début de l'univers et finalement, que s'est-il passé et quand? Et ils affirment aujourd'hui, vous pouvez trouver ça dans les encyclopédies, sur Internet, etc., ils affirment aujourd'hui, comme la page 1 de la Bible, que l'univers a eu un début, qui a eu un commencement. On a mis beaucoup de temps à comprendre que l'univers avait eu un commencement. Ils ne l'affirment pas par la foi, ils l'affirment par le calcul et par l'observation. Et s'il y a un début, il y a un processus, il y a une évolution et très probablement une fin. Il y a donc un certain tempo dans la marche de l'univers, dans de la matière, depuis sa création. Et la plupart des spécialistes disent, s'accordent pour dire que le début de l'univers, le jour, enfin l'instant de la création était cataclysmique, était quelque chose de très violent. On a appelé ça le Big Bang, le grand boom de la création. C'est quelque chose qui est très étayé. Une grande explosion d'énergie, apparition de la lumière, apparition de la matière, évolution de tout cela, jusqu'à cette merveilleuse terre où nous sommes aujourd'hui. Ordre divin, que la lumière soit. Séparation, matière, lumière, ça veut dire nuages, enfin ténèbres et lumière. Ça, c'est tout à fait biblique. Ce processus est confirmé par l'agent scientifique. Le chapitre premier de la Genèse décrit de manière absolument magnifique et poétique les étapes de la création, avec quelque chose de troublant, à mon goût, quelque chose de troublant pour le quatrième jour de la création. Vous vous souvenez que le premier jour, Dieu a créé la lumière et les ténèbres, sans précision du comment, ni du contenu, ni de la manière de faire. Deuxième jour, c'est un peu plus concret. Dieu a créé les eaux et la séparation des eaux atmosphériques des eaux terrestres, la mer et les nuages, en somme. Bon, il a dû faire une roye sur cette terre, puisque la mer s'est formée par la condensation des nuages. Et le troisième jour, l'émergence des continents. La terre sèche est sortie de la mer, on peut le dire. L'apparition des continents. Si vous voulez savoir, vérifier cela, aujourd'hui il fait beau, vous montez sur le Jura, vous allez sur le sommet du Jura, 1100. Vous vous promenez en haut et vous trouvez des cailloux de calcaire, c'est du calcaire, c'est plein de coquillages. Plein de coquillages. C'est du calcaire parce qu'il est vieux, mais c'est plein de coquillages. On va peut-être lire ce fameux chapitre du quatrième jour. Merci Chantal.
Alors Genèse 1, versets 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour.
Merci beaucoup, Chantal. Alors, vous voyez bien le problème, hein ? On a déjà passé 3 jours, et le quatrième apparaît le soleil, la lune et les étoiles. Il y a un problème avec les jours, hein ? Parce qu'il y a déjà eu 3 jours, 3 matins, 3 soirs, les végétaux ont déjà poussé. Le troisième jour, quand les continents ont apparu, les végétaux ont poussé, les arbres, fruitiers, c'est tout précisé. Et pour nous, on sait bien que le soir et le matin, c'est l'effet de la rotation de la Terre. On l'a appris ça à l'école, autour d'elle-même, n'est-ce pas ? La Terre tourne sur elle-même, on le sait, elle est éclairée successivement, tous sont pour tout, par le soleil. Donc, à 24 heures par jour, grosso modo, à l'équateur, ça fait à peu près 12 heures de jour et 12 heures de nuit. C'est comme ça que ça marche. Bon, il y a déjà eu 3 jours qui ont passé, mais tout à coup, au quatrième jour, il y a le soleil et la lune pour donner le jour et la nuit. Ça, c'est un peu compliqué. Au quatrième jour de la création, Dieu fait apparaître les astres, appelés poétiquement le petit luminaire et le grand luminaire pour le soleil, président du jour, la lune, petit luminaire, présidente de la nuit, et les autres astres, les étoiles. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que ce rôle des astres, soleil, lune, étoile, c'est de nous donner le calendrier. Ça s'est fait, la finalité, Dieu le précise, enfin Moïse le précise par l'inspiration, c'est de nous donner le calendrier. Ce récit tout à fait biblique du quatrième jour de la création est la base de nos calendriers encore aujourd'hui. Il est à la base de nos calendriers, de nos agendas, de nos horloges très précises, et ce temps, on l'a organisé, nous avons organisé le temps que Dieu a créé par ces rotations, ces mouvements des astres. Nous organisons le temps créé par Dieu. Maintenant, le problème de ces 3 soirs et ces 3 matins précédents, le quatrième jour, ça nous pose quand même un problème. On peut imaginer que l'organisation de la matière, après cet immense cataclysme initial, que l'organisation de la matière a pris du temps. Moi, personnellement, je ne crois pas que la création complète, achevée, ait été créée en 6 jours ouvrables. Parce que le processus, il a été observé, l'évolution de l'univers a été observée, calculée, etc. Et on sait, par exemple, que cette fameuse explosion initiale, le Big Bang, hein, le gros boom, date d'à peu près 14 milliards d'années. Bon, c'est un chiffre, on n'a pas à avoir peur. 14 milliards d'années, je dirais qu'on va être gentil, à quelques jours près. Hein, c'est... Et puis, la Terre, avec toutes les études théologiques, astronomiques, géologiques, les études scientifiques, elles datent de 4 milliards d'années. Il y a quand même 10 milliards d'années entre la création de l'univers et la Terre dans l'état où on la connaît. Donc, on peut imaginer aussi sans aucun conflit avec la Genèse que le troisième jour, enfin les jours précédents l'apparition du soleil, des astres et tout, la grande roille du deuxième jour, a laissé la Terre comme entourée d'un épais nuage, une couche de nuages énorme. Et comme ce manteau a pris beaucoup de temps pour se dissiper, le quatrième jour a permis de voir les astres ainsi créés par Dieu. Et par exemple, aujourd'hui, c'est vraiment l'illustration la plus parfaite. Vous montez au Jura à 1000 mètres, vous voyez le soleil, la lune, peut-être pas les étoiles en ce moment, mais vous voyez les astres, alors que maintenant, ici, on pourrait croire qu'ils n'existent pas, bien qu'il y ait de la lumière, mais on ne voit pas les astres. Je suis fasciné par ces choses depuis tout petit, depuis ma jeunesse. Je suis fasciné par ces mécanismes et ces fantastiques mécanismes que nous vivons, mais que nous ne voyons pas, que nous ne ressentons pas et que nous ne maîtrisons pas. On pourrait dire qu'ils n'existent pas. Ben non. Je vous donne un exemple. Ils existent. À Mérin, ici, tranquillement assis sur nos chaises, à part moi évidemment, tranquillement assis sur nos chaises, eh bien, nous bougeons, en fait. La Terre tourne, nous bougeons, et nous voyageons à 1156 km/h à Mérin, à la latitude de Mérin, dans cette salle. On voyage à 1156 km/h parce que la Terre tourne et on tourne avec. Bon, on ne le ressent pas. On ne voit qu'un effet. Le jour, la nuit, alternance. Si nous étions assis avec un bon manteau au pôle nord ou au pôle sud, on aurait la vitesse de zéro. On serait assis sur notre chaise avec nos bons manteaux, on tournerait sur nous-mêmes en 24 heures. Donc, on n'en est pas conscient, mais on le vit. Deuxième aspect, ça défrise encore plus les permanentes. Si nous considérons l'orbite de la Terre autour du Soleil, c'est un mouvement, eh bien, nous voyageons tous ensemble, y compris les deux paumés qui sont au pôle Nord et au pôle Sud, ceux-là sont concernés aussi, nous voyageons à 107 000 km/h. Ça va vite, et on voyage, on y est. 107 000 km/h, ticket gratuit et sans carburant. Je le dis pour les écologistes. Alors, une orbite de la Terre autour du Soleil, c'est donc une année. Bon, ça implique que le temps qui passe pour nous est irréversible. Il est irréversible, il est non modifiable. Et on ne retourne pas dans le passé si c'était possible, d'abord, ça se saurait, les vendeurs de cosmétiques feraient fiasco, et on n'a donc aucune prise sur le passé, si ce n'est qu'on peut s'en souvenir et qu'on peut s'en inspirer pour modifier ou agir de manière à tenir compte de notre expérience. Certaines religions disent qu'il y a des cycles de vie. La vie est cyclique, le temps est cyclique. On se réincarne dans une autre créature, dans une autre personne pour s'améliorer. La Bible ne dit pas du tout cela, absolument pas. Il n'y a pas de réincarnation pour se purifier ni pour s'améliorer. Cela va de soi pour nous. En d'autres termes, le temps qui passe est constant et irréversible. La Bible dit... Il est linéaire et providentiel. C'est-à-dire que le temps, il va toujours dans le même sens. On pourrait dire dans le sens du vieillissement, hein, pour ce qui nous concerne, et il est absolument irréversible. Ce qui change par rapport au temps, c'est les événements qui sont contenus dans ce temps. Et je vais faire une petite parabole, parce qu'il y a, il y a deux aspects du temps. Je vais faire une petite parabole, ça vaut ce que ça vaut. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est cet outil ? Une lime. Simple. On a des grandes, des petites, on peut user de la matière, on peut absolument modifier la dimension d'une pièce. Nicolas, mon ami, était mécanicien de précision. Moi, j'en ai fait aussi quelques années. C'est dur, hein, à faire plat et juste. Il faut y aller. Une lime. Bon, j'en prends une plus petite. Facile à décrire, l'outil le plus simple au monde, des petites dents, un manche en bois, il y a une petite gravure pour dire qui l'a faite, Valorbe, ou comme ça. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais on n'est pas là pour ça. Mais je pourrais dire beaucoup de choses parce que je sais comment c'est fait. Ok, ça, j'ai aucune idée de ce que c'est ni à quoi ça sert, mais je peux en dire quelque chose. C'est une espèce de bâton noir, gris, un peu plus clair. Et puis, je ne saurais pas que dire, je ne sais pas. Alors j'appelle cela le passé. Le passé, c'est la lime. Ça, je l'appelle l'avenir, parce que je n'arrive pas à le décrire. Pas décrire l'avenir. Alors c'est bien joli, il y a le passé, il y a l'avenir. Où est le temps présent? Ce qu'on vit. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Ça, c'est le temps présent. C'est le contact entre le passé qui ronge l'avenir. Tout petit, le temps présent. Voilà, c'est une petite illustration. Petite étincelle fugitive du temps présent. Il y a une seconde, c'est le passé. Il y a dans trois secondes, c'est l'avenir. Et la conjonction, c'est le temps présent. Remarquez juste simplement dans cette petite parabole, l'étincelle fait de la lumière est claire, le passé est l'avenir, c'est pour ça qu'il est plus clair cet avenir proche du passé, de l'instant présent. Voilà. Alors, ce temps présent inséré entre le passé et l'avenir, il est fugitif, il est clair, un tout petit peu, et on va réfléchir à ce rapport entre le passé et le présent. Le passé récent, le plus proche de nous, celui d'il y a 5 minutes, celui d'il y a facile à connaître. Passé récent, qu'avons-nous mangé ce matin? Pour ceux qui ont mangé quelque chose, bah oui, ce sera du pain, du beurre, café. On a la mémoire qui marche, c'est facile à évoquer. Le passé un peu plus lointain devient un peu plus difficile à évoquer. Alors, je vous pose une question. Quelles étaient les marques de voitures qui roulaient à Mérin dans les années 80? On aurait déjà plus de peigne, peut-être un ou deux parmi vous qui sauraient, mais ça devient un peu plus vague. On doit faire un effort. On trouverait, mais on doit faire un effort pour savoir la réponse à cette question. Marque de voiture qui roulait en 1980. Pire encore, dans le passé un peu plus lointain, quelle était la température exacte, température extérieure à Mérin, le 17 septembre dernier, pendant le culte, à l'extérieur? Mais comment voulez-vous? On est incapable de dire ça. Il faut aller faire une petite recherche dans des archives techniques. Ça commence à être la galère. Et même notre petite enfance qu'on a vécue chaque jour, on a de la peine à se souvenir de tous ces aspects. Ça, c'est sûr. Donc, on doit se documenter, on doit faire un effort, on doit demander à nos proches, on doit voir des photos, peut-être des documents, pour savoir même ce qu'on a vécu il y a quelques années. Et encore un mot pour ce passé, le passé qui serait très lointain, alors le passé de l'ordre du Big Bang, de la création, le passé très ancien. Si on pose la question, quels étaient les premiers animaux qui sont apparus sur la Terre après la création, on pourrait peut-être le savoir. Mais voyez la somme de travail qu'il faudrait pour répondre à cette question. Malgré la géologie, paléontologie. On ne peut connaître qu'une petite partie du passé, d'autant qu'il est lointain, d'autant c'est plus difficile de le connaître. Donc, le passé ancien relève plus de la foi que de la science. Bon. Qu'en est-il de l'avenir? Alors, l'avenir, nous avons la pensée de l'éternité. Nous avons la pensée de notre destin. notre destin, c'est-à-dire qu'on se pose occasionnellement la question de savoir ce qui nous attend dans l'avenir, dans les temps à venir. Vers quoi allons-nous ? Quelles sont les finalités de nos vies, du temps, de l'histoire, finalement, de la théologie ? Les théologiens, justement, disent que les fins dernières, la science des fins dernières s'appelle l'eschatologie, la science des fins dernières. Vers quoi converge l'histoire ? Bon. On pourrait dire, est-ce que nous pouvons prédire l'avenir ? Attention. J'ai ma boule de cristal. La question est compliquée. Est-ce qu'on peut dire l'avenir ? Moi, je dirais plutôt non. En ce qui concerne mon avenir, on ne peut pas savoir. Mais je peux supposer. Je peux éventuellement faire des projets. On peut connaître une partie de l'avenir indépendamment de savoir si on le vivra ou pas. Curieusement, l'avenir et le passé ont une caractéristique un peu commune. Plus ils sont près du temps présent, plus on peut mettre la main dessus, plus on peut les connaître. Passé, avenir, ils sont éclairés par le temps présent, éclairés comme le petit bâton. Alors on va faire maintenant une parabole, mais c'est une petite comédie, c'est pour agrémenter dans ce papier, j'ai une bougie, j'ai une boule de cristal pour dire l'avenir. Et le problème, c'est comment on va faire ? Alors, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens sur la Terre qui disent l'avenir. Voyant, voyante, astrologue, mare de café, la main. Alors, il faut avoir des pouvoirs, Il faut avoir des pouvoirs, mais de quelle nature ? Bon, alors, moi, je vais vous faire... Vous savez que j'ai du pouvoir. J'ai des pouvoirs. Hein. J'ai des pouvoirs extraordinaires. Et je vais allumer cette bougie par la pensée. Elle est enfermée parce que je ne veux pas qu'on dise que je l'ai allumée avec une allumette. Hein. J'ai des allumettes. Il me faut montrer que j'ai du pouvoir, si je dis que j'ai du pouvoir. Alors, je vais utiliser ma baguette magique. Ma baguette magique, c'est... quelque chose d'extraordinaire qui me met en contact, je joue la comédie, hein. je prends contact avec le ciel, le céleste et le terrestre. C'est quelque chose de très précieux. La partie en bois lie le ciel et la terre. C'est donc un bois précieux. En l'occurrence, je le dis pour les connaisseurs, c'est de la racine de poteau télégraphique. Et la cape en or, c'est du précieux, un or tellement pur. C'est une bijouterie comme nos pacotilles de colliers et de bagues en or. Non, c'est de l'or pur, pur, pur. Et je crois qu'il atteint à peu près les 25 carats. Hein, c'est donc 25 carats, c'est du pur. Hein. Ça, c'est un accessoire. Un deuxième accessoire, bien sûr, ça sera très utile, ma boule de cristal. Bon. Alors, je vous montre la nature de mes pouvoirs. Il faut que je sois honnête. Alors, je vais allumer la bougie par la pensée. Je te l'ordonne. Allume-toi. Elle est enfermée là-dedans. allumée. Elle est allumée. Elle est allumée. Elle n'a pas d'oxygène. C'est une bougie que j'ai récupérée dans une couronne de l'Avent. Elle est allumée. Et puis, il y a encore une chose. Facile, à la limite, je pourrais mettre la Wi-Fi. Je vais encore vous montrer que j'ai le pouvoir de vaincre et le pouvoir sur le feu. On ne l'a pas dit, mais j'ai le pouvoir sur le feu. Alors, bougie, tu ne vas pas me brûler. 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 Ça sent même pas le cochon grillé. Pas brûlé. Pas brûlé. Et donc, je vais faire un exercice de, je vais dire l'avenir, mais Chantal n'a pas voulu que je lui dise l'avenir. Un peu dommage, mais je dirai l'avenir de la bougie. Comme ça, tout le monde voit et puis ça met personne en question. Donc, je vais dire l'avenir de cette merveilleuse bougie. Je peux dire l'avenir à un animal, je peux dire l'avenir à tout. Hein. Les pouvoirs sont tels. Je vais d'abord prendre cette merveilleuse boule et puis je vais prendre l'énergie du ciel, et pour dire l'avenir à cette bougie qui vient me consulter, eh bien, je vais prendre cette boule. Je vais prendre les bonnes énergies du ciel et puis je vais les injecter dans cette merveilleuse boule et je vais pouvoir dire, là, ah, vous voyez que ça marche. Vous voyez que ça marche. Alors maintenant, je vais lire l'avenir. C'est comme on est dans la transparence, on est dans la vérité, on est dans la transparence la plus pure. Donc, petite parenthèse, c'est 200 francs la séance, payable d'avance, hein, mais on est dans la transparence. Alors, je vais voir ce qu'il y a dans cette boule. Oh, oh, la bougie, vous aurez dans 3 jours un succès particulier. Vous serez entouré de gens qui admireront votre lumière. Dans 4 mois, on s'habituera à la douceur de votre lumière, oui, et votre présence lumineuse, les gens diront qu'elle fait du bien. Elle est contente, hein? Et après, dans 6 mois, dans le mois de mai-juin, votre doux rayonnement pourrait décliner. Prenez garde, votre rayonnement pourrait décliner. Et si votre entourage, quelques personnes vous ignorent, ne prenez pas ombrage de cela. On vous reprochera peut-être dans 1 année le prix de votre lumière, le coût de votre entretien. Ne vous mettez pas en peine. Dans 25 mois, vous bénéficierez de quelque chose d'extraordinaire. Une porte s'ouvrira pour vous. Je la vois. Et cette porte fera que vous entrerez dans la douceur, la douce chaleur d'une poubelle. Alors, voilà, on arrête. On arrête et l'avenir proche, on peut mettre la main dessus. Question, qui pense manger quelque chose à midi? Presque tout le monde. Bon. On a l'impression qu'on peut le maîtriser, cet avenir. Participerons-nous à une petite fête dans 3 jours, à Nouvel An ? On a envie, on peut l'organiser. L'avenir à moyen terme, c'est des choses plus difficiles, comme pour le passé. C'est plus difficile, il y a des choses qu'on peut imaginer, mais on est moins sûr qu'elles se produiront. On maîtrise moins, mais on espère plus. Exemple, les agriculteurs parmi nous, ils vont s'intéresser à l'avenir météorologique, bien entendu. Pour leur culture, ils vont regarder la météo, je pense, hein, j'imagine. Les voyageurs que nous sommes parfois, on va peut-être quand même regarder les horaires pour arriver à la gare puis se dire, bon, tiens, on va voir s'il y a un train qui part. On va s'intéresser à l'avenir des départs. Les marins, les pilotes, ils prennent des instruments pour essayer de savoir comment sera l'avenir de leur voyage. L'avenir à plus long terme, c'est des choses qu'on peut imaginer sans savoir du tout si la réalisation sera possible et quand. Quand j'avais, 15 ans, on spéculait avec des amis sur le fait qu'en l'an 2000, on irait sur la Lune, on pourrait se promener sur la Lune. On en était sûr. Bon, ben, c'est pas tellement fait. Hein. Et donc, à très long terme, c'est du domaine de la science-fiction. Alors, entre le passé et l'avenir, il y a cet instant fugace, comme l'étincelle, nous permet de tirer instruction du passé, influencer l'avenir, tenir compte des expériences du passé pour moduler certaines choses à venir. Je pense à la médecine. La médecine, il y a un siècle ou deux, quelqu'un qui avait peut-être un embarras, une occlusion, un truc dans le ventre qui n'allait pas, on lui donnait à boire 1 kilo de mercure. Oui, oui, j'ai lu dans des livres, on faisait boire du mercure à des patients. Et aujourd'hui, c'est devenu scientifique parce qu'on a tenu compte des effets éventuellement négatifs pour améliorer les choses. C'est devenu un état scientifique et prédictif. Deuxième lecture. Alors, je vais demander à Chantal de me lire un élément de l'avenir. Alors là, on devient sérieux. Je vais quand même éteindre cette merveilleuse boule.
Alors, je lis dans Luc 12, versets 16 à 21. Jésus leur raconta alors cette parabole. Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait, que vais-je faire? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. Puis il ajouta, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même, « Mon cher, tu as des biens en abondance. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ?» Jésus ajouta, ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu.
Merci beaucoup. Voilà, alors là, on va s'interroger maintenant sur ce texte. On a vu le texte grandiose de la création, très résumé, et on va regarder cette étrange sanction. Parce que cet agriculteur, personnellement, je trouve qu'il a bien raison d'agir comme il agit. Un peu problématique, mais il réagit normalement parce qu'il a une bonne récolte. Il n'a pas du tout envie de l'acheter, la laisser pourrir dans les champs. Les champs avaient beaucoup rapporté. Donc cet agriculteur, il est normal pour lui de réfléchir à comment faire devant une bonne récolte qui n'a pas la capacité de stockage nécessaire. Il est normal qu'il cherche une solution. Et pour lui, la solution raisonnable consiste à adapter sa capacité de stockage au volume de sa récolte. On aurait fait la même chose, je pense. Normal. Quand on a une bonne récolte, il serait idiot de la laisser pourrir dans les champs. Et ce serait peut-être une offense à Dieu de dire, tu m'as donné de bonnes récoltes, je ne sais pas où y mettre, j'y laisse tomber, j'y laisse pourrir. Ce serait une offense à Dieu, quelque part. Et cet agriculteur, il est aussi très travailleur. Il dit pas, ouais, on verra bien. Non, il construit, hein, il se dit, bon, mes greniers ne suffisent pas, je vais en construire de plus grands, je vais mettre ma récolte dedans, je vais bosser dur. Et donc, il a bien travaillé ses champs, il envisage d'abattre et de reconstruire ses greniers. Donc, il, même avec de l'aide, il n'a pas peur du boulot. Son raisonnement est logique. Du reste, si toute sa récolte et son travail et sa prospérité sont acquis de manière licite, légale, par le travail, où est le problème? Pourquoi un agriculteur prévoyant serait-il sanctionné? Il veut mettre un peu de bien en réserve pour ses vieux jours. Bon, on ne fait pas la même chose, nous, avec nos autres travaux de bureau, avec nos retraites, nos plans de retraite. On fait la même chose. Donc, on pourrait calquer le raisonnement sur d'autres corps professionnels, mettre de côté. Du temps de Jésus, il n'y avait aucune assurance sociale, on est bien d'accord. Tout comme aujourd'hui, dans de nombreux pays, ceux qui n'ont pas d'assurance sociale, ils ont une certaine sécurité pour l'avenir en ayant beaucoup d'enfants. C'est la famille qui tient lieu d'assurance sociale. Notre famille prendra soin de nous. Cette sanction, cette nuit même tu vas mourir, contient un sous-entendu. Insensé, tu crois maîtriser l'avenir en ta faveur, mais tu oublies que la réussite de tes projets dépend de Dieu qui donne la vie. La sanction parabolique, imagée, est due au fait que l'agriculteur a exclu les autres et exclu Dieu lui-même de ses projets. Il pense à lui, il pense à son confort. J'ai adoré la phrase, comme l'a lu Chantal, « Mon cher, tu as eu de bonnes récoltes, tu as des biens pour de nombreuses années. Mon cher, oui, on se parle à soi-même, mon cher. Bon. » Donc, il pense à sa jouissance personnelle et son avenir, il le voit sans Dieu et sans les autres. Faut-il faire des projets? Faut-il faire des projets? Mais les projets sont nécessaires. Dans la mesure où on a des objectifs, qu'on a des échéances, qu'on a quelque chose à envisager, un contenu de la vie, c'est l'usage du temps. L'usage du temps, ce sont les projets. On va faire un effort pour quelque chose de raisonnablement imaginable. Les projets donnent du sens à la vie et les jeunes, notamment, ont mille bonnes raisons de faire des projets. Et ils en font avec donc raison. Avoir un métier, faire des études, peut-être se marier, peut-être avoir une famille, ça c'est tout, des projets tout à fait légitimes. L'erreur à éviter serait de dire, moi je vais m'enrichir, je veux plus, je veux davantage, je compte m'enrichir et j'exclus tous les autres qui se mettraient en travers de mes projets. On va conclure. Nous avons vu que l'avenir est à première vue inconnu, parce que, oui, on ne peut pas savoir, quoi qu'il soit plus ou moins vraisemblable. Plus il est proche de nous, plus on peut l'imaginer, mettre la main dessus. En revanche, pour ceux qui se confient en Dieu, pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, qui ont la foi dans la Bible, qui croient à la parole, l'avenir est tout tracé. Tout tracé. Peut-être pas dans les détails, peut-être pas dans les dates, mais dans les grandes lignes et dans les temps, dans certains temps que nous sommes appelés à distinguer en route. Quelques points pour finir de notre avenir. Premièrement, on part du postulat que nos destinées, c'est-à-dire notre avenir personnel, sont dans la main de Dieu. On est dans de bonnes mains. Ça nous rassure. Avec Dieu, on est accompagné d'un Dieu tout-puissant et bienveillant. Deuxièmement, nous devrons un jour, selon toute vraisemblance, quitter notre corps. Ça, probable. Dans l'avenir, on vieillit. Bon, on vieillit. On quittera notre corps, on passera notre âme, ce qui fait que notre corps n'est pas un cadavre, notre âme va survivre. Elle se situera dans un endroit qui s'appelle le séjour des morts. Je ne sais pas où c'est disons un autre état. Et j'aurais tendance à désigner le séjour des morts comme l'antichambre du royaume de Dieu, de la proximité de Dieu. Pourquoi l'antichambre? Et pourquoi, quand on décède, on ne va pas tout de suite dans le paradis, dans l'immédiat? Parce qu'entre deux, il y a la résurrection. On devra peut-être patienter jusqu'à la résurrection. C'est très probable parce que la résurrection, elle est décrite dans la Bible comme étant pour tout le monde, les vivants et les morts. Sera simultané? On verra bien. Troisièmement, il y aura une forme de sursis extraordinaire dont on peut se réjouir parce que Dieu offrira à ce monde le retour de Jésus. C'est bien précisé que Jésus reviendra de manière glorieuse, établir un règne de justice. Ça, on peut se réjouir. C'est comme un sursis, une dernière campagne d'évangélisation mondiale, avec la possibilité de faire allégeance à Jésus. Il y aura l'enlèvement de l'Église, quelque chose de mystérieux, il y aura la conversion des Juifs à Jésus-Christ. Ils pleureront sur lui comme une femme pleure son fils parce qu'il n'est plus. Ils regarderont à celui qu'ils ont percé. C'est extraordinaire, ça va arriver. Pour le moment, les Juifs, il ne faut pas leur demander s'ils croient en Jésus. Hein. Les Juifs religieux, on est des goyes. Et puis, bon. Quatrièmement, il y aura ce jour aussi attendu du jugement. Et Dieu jugera les vivants et les morts avec deux conséquences. Une résurrection première pour ceux qui rejoindront le royaume éternel. Et en dernier, il faut que j'aille un peu plus vite, notre résurrection aura pour effet de nous procurer un corps nouveau, incorruptible, comme celui de Jésus, après sa résurrection, vivant, sensible, mangeant, buvant, parlant, vu par 400 personnes, vu par Thomas l'incrédule, touche mes mains, regarde mon côté, des cicatrices, corps nouveau, ressuscité, incorruptible. Et ensuite, ce sera évidemment un corps compatible avec l'éternité, un corps qui nous permettra de participer à ce royaume éternel. Alors, je ne vais pas continuer parce que j'en ai assez dit. Gardons les yeux fixés sur Jésus, soyons vigilants pour les temps. Essayons de discerner ces étapes qui nous attendent.
Le passé 2024, certainement chacun, chacune, a un petit témoignage pour le dire à tout le monde, ou bien une prière surtout de reconnaissance. Juste après ce chant, nous aurons un moment où chacun pourra s'exprimer donc au micro ou bien comme ça dans la salle.
Nous voulons confier notre présent et notre futur au Seigneur, car nous savons qu'il tient tout entre ses mains et nous lui faisons confiance. Nous voulons lui chanter « Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur ».
Je
Alors je me tiens à disposition avec le micro pour ceux qui aimeraient faire soit une prière, soit un court témoignage.
Bien, je voudrais remercier le Seigneur parce que il a permis que justement il y ait des gens qui aient le courage de m'opérer il y a trois mois. Et j'ai remarqué que c'était très difficile d'avoir l'espoir quand on va très mal. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui iraient mal ce matin, qui peut-être pensent qu'ils sont des mauvais chrétiens, qu'ils n'ont pas la foi, pas la foi à l'avenir. Mais Dieu s'occupe de nous et j'aimerais vraiment que chacun puisse croire dans l'avenir parce qu'on n'est pas tout seul, notre Seigneur est là. D'une manière ou d'une autre, il nous amènera au bon port. Et j'ai aussi un petit verset qui me fait du bien. Ces temps, j'ai vu que Dieu a choisi les choses folles et faibles pour confondre les fortes. Et si vous vous sentez faible, ben c'est peut-être pour ça que Dieu vous a choisi. Alors on peut se réjouir.
Seigneur, moi je dois te remercier pour toute la vie que tu m'as donnée. Seigneur, tu m'as donné une longue vie et je te rends grâce. Voilà, Seigneur, dans toute ma vie, c'est vrai qu'il y avait des moments où j'ai passé en pensant que, voilà, que j'étais seule, que j'étais... Et maintenant, je me rends compte, Seigneur, que tu m'as toujours suivi, tu m'as toujours aidé, tu m'as toujours mis quelqu'un sur ma route quand j'en avais besoin. Seigneur, oui, et puis pour mon avenir encore, il est entre tes mains. Et je sais que tu seras toujours avec moi, au Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, je suis reconnaissant, Seigneur. Et je t'apporte tout ce en ce moment, voilà, que peut-être peut me peiner, Seigneur, dans ma vie, des situations pénibles. Mais toi, tu seras là, Seigneur. J'ai confiance en toi et je sais, au Seigneur, que toi, tu mettras toutes les choses, Seigneur, en place dans ma vie, parce que j'ai confiance en toi et je sais, au Seigneur, que les prières qu'on te donne, que je te donne chaque jour, ils sont là, au trône de ta grâce. Et je sais que tu feras ce que tu me promets dans ta parole. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur, vraiment, pour toute cette longue vie où tu as été toujours là, de toute petite à maintenant, pendant la guerre, partout était là, mais je ne me rendais pas compte. Maintenant, je te rends grâce pour tout. Seigneur Jésus, merci. Au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce. Amen.
Amen.
Là, je partage un peu une réflexion que je me suis pas mal faite ces derniers temps, on est souvent un peu accablé à force de voir des nouvelles de guerres, de conflits, de destruction, alors qu'on devrait construire un avenir, qu'on devrait arrêter de consommer trop, etc. Et puis on fait des destructions monstres dans différents lieux du monde. Bon, on est dans un monde violent. Objectivement, il l'a toujours été. C'est pas pire maintenant que ça a été au siècle dernier, etc. Mais ça suffit pas pour nous rassurer. Mais je me disais, on vient de parler de Noël. Luc nous raconte que c'est des bergers qui vont voir un enfant tout fragile. Matthieu, qui parle à des juifs, il raconte que c'est des étrangers, puis des astrologues en plus, hein, qui ne sont pas spécialement bien vus, qui vont adorer l'enfant Jésus. Pour moi, c'est un peu une invitation à regarder autre chose. L'avenir, il n'est pas entre les mains des puissants, ni de la technologie, ni de la richesse matérielle, ni de la puissance militaire. Et puis, si on écoute bien, il me semble quand même dans les nouvelles, on entend souvent des petites choses, c'est en filigrane comme ça, mais des gens qui se montrent solidaires, des efforts extraordinaires qu'on fait pour une adolescente qui s'est perdue et qu'on retrouve, ou des élans de solidarité parce qu'il y a eu un tel malheur ici ou là. Puis je me dis qu'on peut être aussi invité à regarder ces choses qui sont toutes petites parfois, mais qui sont quelque part des signes d'autre chose que, voilà, que toute cette violence. Et que, voilà, c'est pas forcément que ça peut être des chrétiens, ça peut être des non-chrétiens, mais pour moi, c'est aussi des signes que, voilà, c'est des signes de l'amour de Dieu, finalement, qu'on peut regarder et qui nous permettent d'avoir un autre regard.
Alors, pour prolonger ce que Sylvain est en train de dire, ces derniers temps, on a lu donc les événements de Noël, et puis quelqu'un m'avait fait remarquer que Jésus, qui est né dans une étable, ça semblait l'horreur. C'était quelque chose, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie et tout. Mais si on réfléchit bien, c'est grâce au fait qu'il était justement dans un endroit retiré, dans une étable, où les bergers ont pu venir l'adorer. Vous le voyez, être adoré dans une hôtellerie qui déborde de monde et tout, c'était pas possible. Il fallait ce temps de mise à part. Ça m'a fait aussi réfléchir à Zacharie, qui a été puni parce qu'il n'a pas cru qu'il pourrait encore avoir un enfant si âgé. Il est devenu muet. Mais s'il n'avait pas été muet, est-ce qu'on aurait cru qu'il avait le droit d'appeler son fils Jean-Baptiste. Et moi, ça m'aide à essayer de regarder les événements qui sont pas toujours faciles. Et parfois, il faut des années pour voir que ça a conduit à des choses positives. Alors, j'ai envie de dire merci, Seigneur.
Merci pour tous ces témoignages. Et puis, on va encore enchaîner juste avant la bénédiction avec la collecte. Je vous rappelle que la collecte est facultative. Hein. Vous mettez ce que vous voulez, mais l'Église vit de vos dons. Il y a aussi la possibilité de payer par Twint ou de payer avec le QR code qui est tout derrière là-bas. Et il y a même aussi une petite... un petit coffret dans lequel vous pouvez mettre l'argent directement.
Thank you.
Voilà, nous allons rendre grâce pour l'offrande consacrée au Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te bénissons pour tout ce que tu nous donnes quotidiennement. Tu combles tous nos besoins et au-delà. Et nous voulons te consacrer ce que nous avons pu mettre à part pour ton service. Permets que cette offrande fasse tout le bien que tu as voulu dans ce partage, dans cette solidarité. En ton nom, Seigneur Jésus, amen. Nous nous levons pour la bénédiction. Je tire de 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24 une heureuse formulation des dons, des vœux que nous pouvons échanger pour la nouvelle année. C'est une suggestion. Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochable pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle accomplira cela, car il est fidèle. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Beau dimanche, belle fête de Nouvel An.